Les podcasts du Collège de France, biologie.
Ce qui se passe ici, c'est que ça se produit aussi dans des cellules qui ne sont pas infectées. C'est-à-dire que ce phénomène de signalisation par capture de membrane est quelque chose qui ne nécessite pas forcément une bactérie qui vient amplifier le phénomène, mais que la bactérie a utilisé un mode de signalisation qui est déjà existant dans les cellules habituelles. En général, les parasites ou les agents infectieux, ils utilisent ce que les cellules savent faire. Et donc, la formation de ces argosomes, hein, ces petites morceaux de membrane qui passent d'une cellule à l'autre, est quelque chose qui n'est pas inconnu au bataillon. Et c'est ce à quoi je faisais allusion quand je disais que les morphogènes peuvent passer d'une cellule à l'autre en signalisant toujours par ce genre de processus d'infection. Hein, d'une certaine façon, on peut appeler ça une infection. Je reviens à mon aile de mouche. Donc ici, j'ai la tige. Ici, j'ai la lumière entre mon épithélium squameux avec mes cellules péripodales. Là, j'ai mes cellules qui vont faire, au sens propre, l'aile de la mouche. Et donc, vous avez plusieurs modèles. Ce modèle des exosomes, hein, vous avez des corps multivésiculaires qui vont entre avec le budding vers le centre de la vésicule, une release et ensuite la capture par la cellule d'à côté. Vous avez là la stratégie des bactéries, hein, ce que je viens de vous décrire avec la bactérie. Sauf que c'est pas la bactérie, là c'est un mode de signalisation normal d'une cellule. Puis évidemment, il y a d'autres possibilités, celle-là à laquelle j'avais pas pensé, mais en lisant le papier de Jean-Paul Vincent. On peut imaginer aussi que vous allez avoir une vésicule qui sort, qui fusionne avec la membrane et qui éventuellement peut aller diffuser, elle peut évidemment rentrer par l'intérieur, mais elle peut aussi simplement diffuser et puis ensuite aller rebauder de l'autre côté pour ressortir, refaire la même chose qu'ici. Hein. Donc on peut imaginer un passage de cellule à cellule qui implique un petit marqueur membranaire sans qu'on ait jamais forcément d'endocytose. Hein. Si je fais comme ça, je vais là, hop, comme ça, je fais ça. Donc en fait, je peux passer d'une cellule à l'autre tout en restant pratiquement tout le temps membranaire, hein, mais sans jamais avoir à être ni libéré, évidemment, je reste membranaire, ni être entré dans ma cellule. Donc, ce sont autant de phénomènes, de mécanismes théoriques de passage des morphogènes. Donc vous voyez tout de suite que si on y réfléchit un petit peu, les éléments de régulation sont très différents selon les types de modes de transport qu'on peut imaginer, hein, c'est assez clair. Donc, les argosomes, voilà ici des arguments en faveur des argosomes. Hein. C'est un travail du groupe de Susan Eaton, un groupe vraiment très, très productif sur le plan intellectuel dans cette histoire de transport. Donc là, de nouveau, ce qu'elle nous montre, c'est, si je ne me trompe pas, hein, c'est de nouveau alors là, c'est carrément, il n'y a pas de morphogène, là, c'est juste de l'AGFP, avec une queue lipidique, un GPI, un glucosylinositol, donc qui permet d'ancrer la GFP dans la membrane. Et donc, vous voyez ici que votre GFP est ancrée dans la membrane. Elle est ancrée très fortement dans le domaine basolatéral, qui est là. Il y a assez peu de choses. Ça, c'est les cellules péripodiales en haut. Hein, on les voit un petit peu. Donc, et elle est exprimée sous le contrôle de N-Grel, c'est-à-dire que ici, dans le domaine postérieur. Tout le reste serait vert. Vous voyez juste le bord du domaine postérieur. Et ce que vous voyez, c'est votre GFP qui se balade de nouveau dans le domaine antérieur, celle qui va les diffuser, bien qu'elle soit là très fortement liée aux membranes. C'est-à-dire que quand elle est liée avec un GPI aux membranes, on ne se décroche pas comme ça, sauf s'il y a des phospholipases, mais ce n'est pas prévu au programme. Le programme de Eaton. Donc, là, ce qu'elle a fait, c'est de nouveau des cellules vivantes. Hein. Donc, ce qu'on voit, c'est que les argosomes sont présents dans le compartiment d'endocytose. Hein. Alors, c'est pas entièrement, pour moi, je trouve pas ça, c'est probablement vrai, hein, c'est pas entièrement convaincant. Elle a marqué le compartiment d'endocytose par une molécule qui s'appelle le FM4-64 qui se fixe aux endosomes au moment de l'endocytose. C'est comme ça qu'on mesure en fait l'activité de formation de vésicules, Et chaque fois que c'est jaune, si vous voulez, vous avez une colloque. Là, par exemple, on a dit qu'il y a une colloque parce qu'on voit un rouge à côté d'un vert très proche, mais ils ne sont pas tout à fait colocalisés. Alors que là on voit une bonne colocalisation, là, on voit aussi une assez bonne colocalisation. Donc, l'idée, c'est que quand même, une heure et demie dans le FM464, elle dit « Many but not all argosomes colocalize with FM464 endosomes. » Et elle met des flèches là où elle voit de la colocalisation. Je crois qu'il faut quand même les yeux de la foi, en l'occurrence, pour rien vous cacher. Mais, c'est souvent comme ça, hein, il faut les yeux de la foi. Hein? Donc, je vous rappelle les deux modèles. Hein, celui-là, soit je suis libéré, je peux être capturé, ça c'est le plus simple. Je peux avoir aussi la capture, ça c'est mes petites vésicules lipidiques hein, qui ont été faites à partir de mon corps multivésiculaire, ou bien le système des bactériens. Mais à chaque fois, c'est des petits fragments de lipides avec le morphogène qui sont promenés. Hein. Mais c'est un des mécanismes qui a été proposé pour le transport des morphogènes. Alors, on peut regarder à quelle vitesse ça se place. Hein, c'est toujours le papier de Suzanne Newton. C'est un papier pas très récent, mais assez récent quand même. Je ne sais plus, 2000 quelque chose, je ne sais pas. 2002, 2003, 2004, je ne sais pas. Donc là, vous avez Engrel dans le domaine postérieur. Et puis, vous pouvez faire un photobleach, c'est-à-dire que vous allez perdre tout ce qui est transporté par votre argosome, c'est toujours évidemment le GFP-GPR, c'est-à-dire que là je n'ai aucune activité biologique. Je suis juste, je me contente de suivre, il n'y a pas de récepteur, il n'y a rien. Je me contente de suivre mon morceau de lipide avec son GFP. Hein. Et je bleach et je vois réapparaître progressivement mes molécules et je peux mesurer la vitesse de récupération. En 3 heures, j'ai réussi à aller aussi loin qu'environ 16 cellules, pour un phénomène comme ça, hein, avec la formation d'un gradient. Donc, c'est un mécanisme qui peut rendre compte, dans un temps relativement rapide, 3 heures, 16 cellules, de la formation d'un gradient le long de l'axe ici, antéro-postérieur de mon aile. C'est-à-dire que je ne sais pas, voilà, ça c'est la première réponse. Pour les exosomes, Clotilde Théry à Curie a préparé des exosomes, il a fait de la spectro de masse sur les exosomes, et elle a identifié un grand nombre de protéines qui sont exprimées à la surface des exosomes, dans lesquelles on trouve des intégrines, par exemple. Dans le cas d'argosomes, je ne sais pas. On peut imaginer la même chose, c'est-à-dire que peut-être que l'argosome, quand il se forme, entraîne des molécules d'adhésion. Il n'y a pas une grosse différence entre l'exosome et l'argosome. Ça reste quand même relativement sémantique. Hein, parce que dans le cas de l'exosome, il faut passer par la cellule pour sortir la vésicule. Dans le cas de l'exosome, dans l'argosome, on fait la vésicule directement. Mais globalement, on se retrouve dans la même configuration. On se retrouve exactement dans la même configuration. Et je ne vois pas que les gens aient fait la spectro de masse sur les molécules exprimées par l'argosome, mais ils l'ont fait pour les exosomes. Et on trouve là la lactadérine, par exemple, qui est une molécule spécifique des exosomes. On trouve une intégrine, je ne sais plus laquelle, Madame Tixivida. On trouve aussi des molécules solubles du genre Hitchcock protéine. On trouve la Hitchcock protéine 70. Ça, c'est assez intéressant. Mais on ne trouve pas n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un organelle, hein. Et je suppose, il faudrait demander à Mme Eaton, je suppose que les argosomes, c'est plus ou moins la même chose. Mais là, ce qu'on suit, si vous voulez, c'est juste... Bon, quand on imagine qu'il y ait un morphogène, on peut penser qu'il se fixe à un récepteur et que ça joue. Hein. Là, c'est vraiment sans aucune régulation liée aux propriétés biochimiques ou biologiques du morphogène. C'est le pur GFP, à moins qu'il y ait des récepteurs à la GFP, mais... Ce serait beaucoup demandé quand même à une aile de mouche. Et alors, ça mettrait en cause tous les travaux qui ont été faits depuis là, parce que vous imaginez ce que ça amènerait comme bordel. Pardon, comme désordre. Donc, voilà. Donc là, c'est... Mais simplement sur le plan de la simple diffusion par endocytose, ça permet de rendre compte, dans un délai de temps qui est biologiquement raisonnable, de la formation d'un gradient le long de, je dis ici, d'environ 16 diamètres cellulaires. Ce qui est pas mal quand même, hein, ça fait environ 150 microns, donc dans un disque imaginal, c'est largement suffisant.
Comment ça se fait qu'un gradient est en deux phases ?
J'en sais rien, non. Honnêtement, je peux pas te dire. J'ai pas regardé. Bon, peut-être que ça se fait d'abord très vite, peut-être que ça rediffuse derrière. Il y a peut-être quelque chose derrière qui est intéressant. Je sais pas. De nouveau, c'est autre chose. Là, ils l'ont fait dans le domaine dorsal ventral, avec sous le contrôle de Apterus, donc. Et ils ont regardé si ça colocalisait avec Wingless, qui est un morphogène qui est important dans le patterning dorsal ventral de l'aile. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de situations où Wingless est présent dans les argosomes qui expriment la GFP. Donc là, ça va un tout petit peu plus loin, c'est un peu plus loin, parce que ça suggère qu'effectivement, Wingless peut être présent dans ces vésicules de type particulier qui sont des transporteurs potentiels. Hein. On est toujours ici très largement dans les hypothèses, hein, malheureusement. Malheureusement, c'est pas grave. De nouveau, ici, un truc que j'ai voulu vous montrer, parce que c'est un point qui m'intéresse particulièrement, c'est que si je retire les sucres complexes, j'ai plus grande difficulté à faire balader mes vésicules, ce qui pourrait suggérer que les sucres complexes participent aux mécanismes de reconnaissance nécessaires au passage entre les cellules. Donc, je reviendrai plus tard sur les sucres complexes, parce que je reste convaincu que c'est un des éléments clés du système de transport des morphogènes au cours du développement, et d'ailleurs chez l'adulte aussi, parce qu'il y a des morphogènes aussi chez l'adulte. Donc, pourquoi les endosomes, même si on pense que l'endosome est un mécanisme de transport, c'est un mécanisme de transport qui va aussi permettre de faire de la signalisation. Il y a des gens qui pensent que c'est seulement un mécanisme de signalisation, comme vous avez pu voir, mais il reste que c'est important parce que l'endosome est, comme je vous l'ai rappelé il n'y a pas très longtemps, un organelle qui est un organelle qui fait de la signalisation. Donc là, je me trouve, j'ai plusieurs cas, hein, j'ai le TGF-bêta qui est du DPP, hein, c'est l'équivalent du DPP chez. Fait partie de la famille des bone morphogenetic factors, proteins, BMP. Vous voyez que ici, je vais être capturé dans l'endosome. Voilà Sarah, dont je parlais tout à l'heure, David, qui est une molécule qui se fixe sur mon récepteur et qui est importante pour aller signaler soit localement, soit carrément aller passer dans le noyau. Donc ici, vous avez le récepteur LGF, qui va dans l'endosome, et puis ce sont des endosomes qui sont capables, évidemment, de signaler. Donc, sauf, évidemment, quand je suis transporté dans le lysosome, hein, via RAP7, auquel cas, là, je suis mort. Le morphogène. Rappel, la vésicule d'endocytose, la clatrine, hein, donc quand je bloque la dynamine dans mes mutants Schieber, hein, pour ceux qui veulent revenir un tout petit peu en arrière, comment est-ce que je bloque la formation d'endosomes, vésicules d'endocytose? Je peux inactiver la dynamine, ça empêche la formation des vésicules d'endocytose. Quand mon agoniste se fixe son récepteur, je recrute des cofacteurs, des gens bêta restine, PS15, ce n'est pas le problème. Là, ici, ma vésicule d'endocytose, qui va aller fusionner avec l'endosome précoce, qui peut lui recycler pour repartir à la surface, mais qui peut aussi rester sur place. C'est sous le contrôle de RAP5 pour aller signaler dans la cellule, c'est-à-dire phosphoryler, provoquer des modifications de la transcription, jusqu'au moment où RAP7 va l'emmener vers ce qu'on appelle l'endosome tardif et vers la dégradation finale. Ça existe dans tous les mécanismes, ça a été montré pour le NGF. C'est important dans un neurone parce que ça peut permettre le transport rétrograde d'un endosome qui signale jusque vers le noyau, au passage du noyau. Il y a même des gens qui pensent que ça passe dans le noyau. Mais en tout cas, ça peut phosphoryler des facteurs de transcription qui, eux, vont aller passer dans le noyau et faire passer une information depuis loin, puisque mon cône de croissance peut être très loin. Et par un transport rétrograde, je peux passer l'information jusqu'au niveau du corps cellulaire. Ici, je vous l'ai mis parce que je vais y revenir tout à l'heure. C'est le cas du facteur de croissance du nerf qu'on peut voir ici. Ça, c'est le cas d'une autre molécule qui s'appelle Hedgehog, dont on a parlé. Quand Hedgehog se fixe sur son récepteur, patched, il entraîne une désinhibition de l'inhibition de Smoothen, qui est ici. Et Smoothen, dans l'endosome, peut aller lui aussi signaler largement à plusieurs endroits. Je reviendrai plus tard sur la question de Hedgehog. Pour notre ami David, mon endosome, ici, qui est un endosome qui se fixe à Sarah. Et là, j'ai, grâce à cette fixation, une activation de SMAD, qui est un cofacteur qui va aller dans le noyau pour aller entraîner un élément de régulation de la transcription nucléaire. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait aussi des phosphorylations locales sur des protéines qui ne sont pas forcément des protéines qui vont dans le noyau. Tout ça est sous complexe en fait, des inosinophosphates, sous contrôle des inosinophosphates. Donc, je vais passer maintenant, pendant une demi-heure, à un autre problème, qui est le problème du temps. C'est-à-dire, je vous ai dit plusieurs fois que c'est bien gentil d'avoir un gradient, c'est bien gentil d'avoir un morphogène, mais qu'indépendamment de la concentration de ces molécules, le facteur temps d'exposition est un phénomène important. Et pour illustrer ça, on va quitter les mouches. Ça va nous soulager un petit peu, hein, parce qu'on a fait beaucoup de mouches. Et on va passer ici au poulet. Pas forcément un progrès dans l'évolution, d'ailleurs, mais ça nous rapproche quand même. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau des placodes olfactives, c'est-à-dire une partie de l'ectoderme qui, au moment de son invagination, va faire les fosses nasales. Hein, et puis les placodes qui vont faire la lentille dans la formation de l'œil chez le poulet, chez le vertébré. Donc il y a des marqueurs pour ces deux organes. Voilà ici la région. Au départ, les deux zones sont mélangées. Hein. Et puis au cours du développement, les deux zones se séparent et la placode olfactive va se séparer de la placode oculaire. Avec des marqueurs qui sont des marqueurs spécifiques pour les deux types de régions. Par exemple, un enzyme qui sert à la synthèse de l'acide rétinoïque, hein, RALDH3, est exprimé très fortement dans la placode olfactive. Vous avez aussi de la kératine, hein, qui est exprimée dans la placode olfactive. Et ici, c'est quelques neurones, c'est les marqueurs UCUD qui marquent les premiers neurones post-mitotiques dans cette région, en vert. Hein. Ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, quelque chose que vous n'avez pas dans la placode olfactive, c'est la delta cristalline, qui est une molécule qui est impliquée dans la formation de la lentille dans l'œil. Hein. Et quand vous regardez, par contre, la lentille ici, donc c'est la placode oculaire, en l'occurrence, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez aussi de la kératine, mais vous n'avez pas cette enzyme de synthèse de l'acide rétinoïque, hein, qu'il n'y en a pas du tout. Par contre, vous avez, bien entendu, la cristalline. Donc, vous avez des marqueurs qui vous permettent de dire à quel moment ma placode va devenir une placode qui va me faire les nasal pits, les placodes olfactives, ou la placode oculaire, hein, pour faire simple. Bien que les deux, bien entendu, proviennent de la même région antérieure de mon embryon de poulet. Parce que, comme je l'ai dit, avant ce stade 17, qui est déjà relativement tardif chez un poulet, les deux régions sont chevauchantes. Donc, vous allez voir qu'on pense, hein, de nouveau, je pense qu'il faut être prudent parce que tout ça peut être remis en question, mais l'idée qui est derrière ça, c'est que c'est le temps d'exposition au BMP, c'est le bone morphogenetic protein, en fait, c'est comme des PP, hein, c'est la même molécule en gros, hein, en tout cas, c'est très très proche au niveau famille. C'est non pas la concentration qui est importante de cette molécule, donc le gradient, on s'en fiche. Hein, ce n'est pas un problème de concentration, mais c'est un problème de temps d'exposition, hein, qui est aussi évidemment une variable importante, comme on l'a dit plusieurs fois. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut prendre un morceau de placode non différencié, ici à l'avant, hein, On peut la mettre en culture pendant 40, 50 heures, en gros, pour arriver à un stade qui correspond à mon stade 17, E2,5 chez le poulet, où mes deux placottes sont bien séparées. Et ensuite, je ne vais pas là, mais je reste en culture, je prends mon petit morceau d'explant, et je le coupe en petits morceaux, je le sectionne, et puis je regarde quels sont les marqueurs qui sont exprimés. Est-ce que j'ai de la placode olfactive ou est-ce que j'ai de la placode oculaire, par exemple. Donc vous voyez ici une placode olfactive et lentille, hein, c'est au stade 4, je pense cette région-là, qui peut me donner les deux. Et puis, qu'est-ce que je vois? C'est que ça m'a donné à la fois, au bout de 50 heures de culture, c'est-à-dire un stade, j'ai dans le même morceau de viande, quoi, de petit morceau d'embryon, j'ai à la fois des cellules qui vont me donner de la placode olfactive, parce que j'ai l'acide rétinoïque, enfin l'enzyme de synthèse, mais j'ai aussi de la bêta-cristalline dans une autre zone, c'est-à-dire que le même morceau a pu se différencier tranquillement pour me donner les deux types de tissus, hein, alors que je l'ai mis en culture pendant une quarantaine d'heures. Donc j'ai tout ce qu'il faut là pour que ça marche. Et là, c'est pareil, je me suis démarré au stade 6, démarré un tout petit peu plus tard, bon, vous voyez mon embryon un peu plus grand, mais globalement, je suis capable de faire tout ce qu'il faut pour faire les deux types de placodes. Donc, ce que je peux aussi, c'est prendre ma placode ici, et puis, voilà donc la manip de tout à l'heure, hein, c'est la même. Ça, c'est du tissu nerveux, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, comme la même manip, là, j'ai pris au stade 4, j'ai laissé 50 heures, et puis j'ai à la fois de l'olfactif et du visuel, hein, pour dire simple. Par contre, je peux faire autre chose qui consiste à mettre une molécule qu'on appelle noguine. Alors, noguine, c'est quoi? Noguine, c'est une molécule qui se complexe au BMP et donc qui empêche l'activité des BMP. BMP, DPP, même combat, même famille. Donc, je peux en même temps, dans mon explant, introduire un élément qui va me bloquer les BMP. D'accord ? Et je peux faire la même chose que mettre un truc qui bloque les BMP en mettant quelque chose qui ce qu'on appelle un dominant négatif des BMP, c'est-à-dire un morceau du récepteur au BMP qui est soluble. C'est-à-dire que comme j'ai le morceau de récepteur au BMP, le BMP qui se balade dans mon tissu va se fixer sur le récepteur, mais comme le récepteur est soluble, il ne va pas avoir d'activité. Donc il va entrer en compétition avec le récepteur. Supposez que j'ai un morceau extracellulaire de thick vein qui doit se lier normalement à DPP. Si j'ai du récepteur qui se balade partout, il va fixer DPP, et puis DPP ne va pas trouver son vrai récepteur avec le domaine intracellulaire qui permet de faire de la signalisation. Donc c'est comme si je mettais un antagoniste. Ça veut dire quoi? Que cette manip-là, comme celle-là, elle bloque BMP. Eh bien, quand je bloque BMP, vous voyez que tout d'un coup, je ne fais plus placode olfactive. Vous voyez, je n'ai plus l'enzyme de synthèse de l'acide rétinoïque, hein, mais je ne fais plus non plus de bêta-cristalline. Par contre, je fais du système nerveux. Hein, voilà, ici vous avez du système nerveux, c'est les marqueurs de neurones d'une certaine façon. Et ça va très bien avec des expériences qui avaient été faites dans les années, fin des années 90 par le groupe de Melton et puis ensuite par le groupe des Mathis Privanloo, montrant que l'induction neurale, ce n'est pas quelque chose qui induit du nerveux, mais c'est quelque chose qui bloque la formation du système nerveux. C'est-à-dire que quand on bloque les BMP, on fait du système nerveux. Donc là, c'est ce qui se passe. Ils bloquent les BMP, ils font du système nerveux, et ils empêchent la formation des placodes olfactives et oculaires. Donc, si je lis, je trouve. Ici, c'est une manip qui est un petit peu plus astucieuse encore, parce que là, ils ne prennent pas la placode olfactive ou oculaire, ils prennent du cerveau, du futur cerveau, ils prennent le front brain, hein, forebrain. Donc, normalement, ça, c'est l'affaire du cerveau. Et vous voyez que si vous laissez ce petit explant au stade 4 se développer par lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire L5 et NKX2.2, qui sont des marqueurs cérébraux, en fait, c'est du système nerveux. Et ça, c'est du système nerveux plus ventral, c'est pas un problème, on fait du système nerveux total, avec pas mal de système nerveux ventral aussi, qui est marqueur des régions ventrales. Mais si je prends celle-là, et que maintenant j'ajoute du BMP, hein, et j'ajoute 35 nanogrammes par ml de BMP dans mon milieu, qu'est-ce que je fais? De nouveau, maintenant, je refais de la plaque code et je bloque la formation du système nerveux. Donc ça, c'est exactement comme la manip des Mathieu Privant-Loup et de Dick Melton. Si je bloque BMP, je fais du système nerveux. Mais si je mets du BMP, je bloque la formation du système nerveux. Là, vous voyez, je n'ai plus de marqueurs neuronaux, mais j'ai mes marqueurs de plaque code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que BMP, 35 nanogrammes, me permet de faire des plaques code. Mais si je mets 100 nanogrammes de BMP, alors je ne fais plus rien que de la peau. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai deux zones, pas de BMP nerveux, un peu de BMP, les plaques code, beaucoup de BMP, de la peau. C'est-à-dire que suivant mon gradient de BMP, suivant la dose de mon morphogène, je vais engager mon tissu, soit si je n'en ai pas du tout dans une voie nerveuse, soit si j'en ai un peu dans une voie, les plaques code olfactives ou oculaires, soit si j'en ai beaucoup, de la peau. D'accord? Donc j'ai trois zones de concentration qui vont me permettre de faire ces trois types de tissus. Hein. Maintenant, comment est-ce que je vais distinguer, quand je vais faire des plaques code, entre les plaques code oculaires et les plaques code olfactives? Eh bien ça, je vais le distinguer en fonction du temps pendant lequel je vais appliquer mon BMP. Hein, vous allez voir. Donc là, si je me souviens bien, j'ai ma plaque code olfactive. Je reviens maintenant à ma plaque code olfactive. Je ne prends pas du futur système nerveux, je prends ma plaque code olfactive et oculaire, hein, OLP, le précurseur. Je cultive pendant un certain temps et je rajoute du noggin, c'est-à-dire je bloque BMP. Là, je n'ai pas mis de BMP au départ. Donc, ça veut dire que je n'ai pas eu du BMP très longtemps. Je mets j'ai ma plaque code olfactive. Hein. Et là, de nouveau, j'ai du BMP, mais j'ai mis du noggin, donc j'ai aussi bloqué. Donc, j'ai encore ma plaque code olfactive. C'est-à-dire que je mets du BMP pendant pas très longtemps, hein, de telle sorte que je suis exposé à BMP, mais pas de façon extraordinairement puissante. Et je mets, du coup, j'ai de la plaque code olfactive, mais j'ai pas de plaque code oculaire. Hein, vous voyez, j'ai très très peu de delta cristalline. Donc là, ça veut dire que j'ai cultivé, vous voyez, j'ai mis pendant 12 à 15 heures. Pendant 12 à 15 heures, le BMP a eu le temps de faire son boulot. Et puis ensuite, j'ai bloqué avec noggin. Donc j'ai exposé pendant un certain temps. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi cultivé pendant 12 à 15 heures. Et ensuite, j'ai rajouté du DMP. Hein. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est que je fais de la delta cristalline, c'est-à-dire que je fais de la plaque code oculaire, mais je ne fais plus de plaque code olfactive. Hein. Là, si je pars de forebrain, il faut d'abord que je mette du BMP, et ensuite, je remets du BMP. Donc avec ça, j'ai transformé d'une certaine façon FB en OLP, et ensuite le BMP, eh bien, je bloque la formation de ma plaque code olfactive, et je ne fais plus que de la plaque code oculaire. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est vraiment la réponse, c'est-à-dire que la zone de concentration me dit quel type de tissu je vais faire, plaque code ou pas plaque code. Et il me faut une concentration moyenne, disons, d'environ 35 mg nanogrammes par ml, je n'ai pas regardé. Il m'en faut beaucoup plus pour faire de la peau, il m'en faut beaucoup moins pour faire le système nerveux. Et quand je suis dans ma zone plaque code, en fonction du temps pendant lequel je vais avoir le signal, je vais décider si je fais de l'œil ou du nez. Donc, à l'information concentration, je superpose une information durée. Hein. Et évidemment, c'est important parce que bon, c'est un élément réel de savoir qu'est-ce que c'est que le temps pendant lequel je suis exposé à un morphogène. Donc je pense que c'est le même principe. Je ne sais plus très bien ce que j'ai fait. Là, oui, j'ai pris un animal plus tard, hein, au stade 8, c'est-à-dire un animal beaucoup plus vieux. Et c'est un moment où j'ai du delta cristalline, mais je peux aussi bloquer avec noggin, et à ce moment-là je bloque le BMP et je vais faire apparaître ma plaque code olfactive et je vais faire disparaître mon cristallin. Donc bon, c'est des variations si vous voulez sur un même thème, mais le message est celui-là: il y a la concentration et il y a le temps. Donc il ne faut jamais oublier que les deux choses sont liées, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est instantané. J'ai joué avec ça, j'ai récupéré toutes les diapositives de cet article pour vous amuser avec cette histoire, mais Je pense que maintenant, vous avez quand même compris de quoi il retourne. Je ne vais pas y passer beaucoup plus de temps. Vous pouvez avoir, évidemment, accès à l'article. Et comme ça m'a été demandé, ceux qui sont intéressés, je leur donnerai accès aux fichiers. Je ne vais pas les mettre sur le site pour des raisons de droit. C'est-à-dire que si je commençais à mettre tout sur le site, on risquerait d'être enquiquiné. Mais évidemment, je peux donner les références à qui les désire. Donc, je vais passer maintenant avant la semaine prochaine, où je parlerai d'autre chose, mais je vais passer maintenant au deuxième exemple de l'importance du temps dans la morphogénèse. Et c'est un exemple que je prends sur Sonic et Jog et la formation de la patte du poulet. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier cours, vous avez rappelé que hedgehog, chez la mouche, si je fais une expression d'hedgehog ectopique dans le domaine le plus antérieur de mon disque imaginal, maintenant vous êtes vraiment rodé avec ça, eh bien je vais avoir une duplication de mon aile et je vais le voir en fonction des veines que je peux voir. J'ai la veine 5, 4, 3, 2 et je vais avoir une deuxième petite aile ectopique induite par mon morphogène hedgehog. 2, 3, c'est-à-dire une aile en miroir. Et ça, c'est quelque chose qui a été aussi démontré pour le poulet, avec ce qu'on appelle l'orthologue de hedgehog chez le poulet, qui est Sonic hedgehog. Il y a trois gènes hedgehog chez les vertébrés. Celui-là, c'est Sonic. Vous voyez ici le bourgeon de poulet. Alors, imaginez votre poulet, il est comme ça. Imaginez-le couché sur le ventre. Ça, c'est l'avant, et ça, c'est l'arrière. D'accord ? Donc, l'arrière, c'est le petit doigt, hein, et l'avant, c'est le pouce. Pour un poulet. Sauf que le poulet n'a que trois doigts. Donc, voilà ici le doigt 4, hein, qui est à l'arrière, qui est mon petit doigt. Et puis, c'est l'annulaire. Et puis ensuite, le doigt 3 et le doigt 2. Donc, on n'a ni doigt 1, ni doigt 5. Mais si maintenant je prends un peu de Sonic et que je le branche, je le greffe, ou sur une bille, par exemple, une bille, je mets du Sonic et je greffe une petite bille là, ou je prends un petit morceau de ce qu'on appelle la ZPA et je la greffe ici, je vais avoir une duplication de mon doigt, de ma main, avec 4, 3, 2, 2, 3, 4. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que je postériorise la partie antérieure, c'est quasiment une mutation myotique, c'est-à-dire que je duplique l'axe parce que maintenant, les cellules qui sont ici s'imaginent, entre guillemets, qu'elles sont ici, et donc qu'elles vont faire le doigt numéro 4. Et ça se voit, j'ai une duplication. Et ici, si vous regardez bien, vous pouvez la voir, la duplication 4, 3, 2, 2, 3, 4. Hein. Donc, c'est une expérience qui reprenne avec un morphogène identifié, Sonic, des expériences qui ont été faites à partir de greffes par quelqu'un qui s'appelait deux personnes, Saunders et Gastling, dans les années en 1968. Ensuite, ça a été refait par les Anglais, je ne sais plus qui a fait ce manip-là, mais je crois que c'est Madden, avec de l'acide rétinoïque. Aujourd'hui, on sait que le véritable morphogène, c'est Sonic Hedgehog. Alors, Sonic Hedgehog, là, vous allez voir, je vais vous montrer, il y a une partie à la fois durée, hein, et une partie diffusion. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une partie gradient de concentration, en particulier pour faire une partie du doigt 3 et le doigt 2, il y a un phénomène de diffusion. Pour faire le doigt, je vous donne la solution tout de suite. Pour faire le doigt 5 et le doigt 4, il n'y a pas de diffusion, c'est un problème de durée. Et pour faire le doigt 1, il se fait par défaut. C'est-à-dire que lui, il ne faut pas qu'il voit de morphogène. Il y a des zones où ça fonctionne différemment. Dans le cas du patterning, la formation du patron de l'axe dorso-ventral du tube nerveux, c'est une lecture de gradient avec une diffusion de Sonic depuis la plaque du plancher vers les parties les plus dorsales. Et rappelez-vous, je vous ai montré cette diapositive au premier cours, en fonction de la concentration de Sonic, les cellules vont adopter un devenir particulier. Autoneurones, interneurones, etc. Donc, tous les tissus n'utilisent pas les mêmes stratégies pour répondre à des gradients de morphogène. De nouveau, il faut se garder beaucoup dans ce genre de truc de généraliser, parce que une stratégie peut être utilisée par un tissu, une autre par un autre. Et donc là, je vais vous parler de la stratégie du membre. Hein, comment faire un membre ? Comment faire une main, en l'occurrence, ici ? Une main de poulet, mais bon. Mais de souris aussi. Hein. Donc là, d'ailleurs, c'est une souris. Hein. Donc c'est un travail que j'ai pris chez Tabin, sur un travail de 2004. Et comme je ne vais pas me planter de nouveau, parce que ces choses-là sont quand même plus compliquées qu'elles n'y paraissent, ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc là, c'est une, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis la GFP, de nouveau la molécule fluorescente, sous le contrôle du promoteur de Sonic Hedgehog. C'est-à-dire que cette protéine va être exprimée partout où Sonic est actif. Et vous voyez que c'est bien fait, ça c'est un contrôle. De toute façon, on regarde l'expression de Sonic par hybridation in situ, et on regarde la protéine fluorescente, on voit bien que ça colle bien. Donc ma construction, elle est bien faite. Hein. Et puis, ce qu'on appelle ici, c'est en fait ce qu'on appelle un patron dynamique. Alors, quand les embryologistes vous disent qu'il y a un patron dynamique, ça veut dire que c'est compliqué. Parfois, ça veut dire aussi qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc là, le patron est très dynamique. Vous avez ici une immunocytochimie pour Sonic. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la protéine. Dans ce qu'on appelle une toto, c'est-à-dire qu'on prend la patte de l'embryon, et puis on la trempe dans l'anticorps et on regarde où est la protéine. Donc la protéine, vous voyez, est exprimée de façon relativement large. Hein, et ça, c'est le niveau d'expression du gène. Hein, c'est là où il est transcrit. Donc vous voyez que ici, la protéine est plus large dans son expression que là où elle est synthétisée. C'est-à-dire qu'elle diffuse. C'est-à-dire qu'elle va se promener en dehors de son site d'expression. Vous êtes à 10,5 jours de développement chez une souris. La souris vient à terme vers E19, E20, hein, en gros comme ça. C'est au bout de 20 jours de gestation. Et là, vous êtes à 11,75, c'est-à-dire que vous êtes relativement un jour et quelques heures après ce stade-là. Vous avez un pattern complètement différent. Ce que vous voyez ici, c'est c'est que vous voyez que les... Alors, là, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est assez subtil, parce que il faut suivre les descendants des cellules qui expriment Sonic. Et pour faire ça, on fait recombiner une enzyme qui est la bêta-lactoxydase sous le contrôle de Sonic Hedgehog. Et partout où Sonic Hedgehog a été exprimé, les cellules peuvent être colorées en bleu, même si elles n'expriment plus Sonic, parce que l'autre gène, lui, a été activé. D'accord ? Donc, toutes les cellules qui vont exprimer la bêta-lactoxydase, que je vais pouvoir voir avec cette réaction bleue, sont des cellules qui ont exprimé Hedgehog à un moment ou à un autre de leur vie, mais ça ne veut pas dire qu'elle exprime encore. Et ce que vous voyez ici, c'est que maintenant, j'ai une perte d'expression de mon morphogène, parce que le morphogène a une expression dynamique, c'est-à-dire qu'il a été fortement exprimé et qu'il l'est maintenant beaucoup moins. Mais par contre, les cellules qui ont exprimé Sonic, elles vont beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a eu de la migration cellulaire, d'une certaine façon. C'est-à-dire que mes cellules, elles sont restées pendant un certain temps dans la zone où on exprime Sonic, et après, elles ont été capables de partir. Donc ça veut dire c'est que ces cellules, il y a des cellules qui sont restées plus ou moins longtemps dans la zone de prolifération, dans la ZPA, dans la zone où j'ai une forte expression de Sonic. Et le temps pendant lequel je vais rester dans cette zone est essentiel pour savoir quel organe je vais fabriquer le long de l'axe postérieur-antérieur, en l'occurrence ici, de mon poulet. Ici, vous avez un point encore beaucoup plus fort. Vous voyez que les descendants, hein, à E14,5, ils ont été extraordinairement loin, c'est-à-dire qu'ils vont quasiment jusqu'à la moitié du bourgeon. Hein, et jamais Sonic n'exprimait jusque-là. Donc là, ça veut dire que j'ai des cellules ici qui ont migré hors de la zone ZPA, cette zone-là où il y avait beaucoup de Sonic, hein, et qui sont capables d'aller jusque-là. Et en fait, ici, vous avez le futur doigt 5. Ici, vous avez le futur doigt 4. Vous avez la moitié du doigt 3 qui est là. Et le doigt 2, où il y a, en fait, et puis le doigt 1, il va être par ici. Donc vous voyez que vous avez des précurseurs qui vont vous donner des doigts qui ont été très fortement au contact de cellules qui expriment le morphogène. Et vous avez des doigts qui ont besoin du morphogène, parce que si vous faites le chaos, si vous invalidez le morphogène, vous perdez ce doigt, qui est le doigt 2, mais qui n'ont jamais vu la synthèse elle-même du morphogène. C'est-à-dire que le morphogène est venu d'ailleurs, il a diffusé. Hein. Donc, et puis vous avez le doigt 1 qui, lui, n'a pas besoin de morphogène du tout, c'est le doigt par défaut. Hein. Donc vous voyez ça ici, le doigt 5, le doigt 4, la moitié du doigt 3. Hein. Donc là, ces cellules-là, elles ont exprimé Sonic. Hein. Celles-là l'ont exprimé plus longtemps, celui-ci, celui-là un petit peu moins longtemps parce qu'elles sont sorties plus tôt. Hein. Plutôt de la zone, il est parti de la zone parce qu'il a migré d'abord. L'autre moitié du doigt 3 n'a jamais vu de Sonic. Le doigt 2 n'en a jamais vu non plus. Enfin, il n'en a jamais synthétisé, il en a vu, il n'en a jamais synthétisé. Et le doigt 1 n'en a jamais synthétisé, il n'en a jamais vu. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, de nouveau ici, mon futur doigt 5, 4, un petit peu de 3. Et vous voyez que ici, si je fais ça à E10,5, j'ai encore de l'expression dans ces deux doigts. Si je fais ça à E11, alors là, c'est ce qu'on appelle une induction par tamoxifène, c'est-à-dire que je vais induire mon gène à un stade où j'en ai envie. Donc je vais voir le gène actif à un stade où j'en ai envie. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que la molécule est dans le cytoplasme et je peux la faire passer dans le noyau au moment où je veux, c'est-à-dire voir plus tard, si je veux, son expression. Et ce que vous voyez, c'est que celui qui exprime le plus longtemps, c'est E11,5. C'est le doigt 5. Donc là, j'ai une bonne indication du temps pendant lequel mes cellules sont restées avec le morphogène. Alors voilà, donc je vous résume. Hein. Le doigt 5 et 4 sont exprimés en fonction du temps d'expression du morphogène, et pas de la concentration. C'est une concentration très forte, mais c'est le temps qui compte. Le doigt 3, pour la moitié, est fabriqué en fonction du temps d'expression pour la moitié du doigt et de la concentration pour l'autre moitié, parce que l'autre moitié est composée de cellules qui n'expriment pas le morphogène mais qui le reçoivent, qui savent lire sa concentration. Le doigt 2, lui, ne dépend que de la concentration, parce que lui, il est incapable de synthétiser le morphogène, mais il est capable de lire sa concentration. Quant au doigt 1, il s'en fiche complètement, lui, il se développe indépendamment de Sonic. Donc vous voyez ici, dans le même organe, trois stratégies, concentration, durée et développement par défaut, c'est-à-dire il ne faut pas de Sonic pour fabriquer le doigt 1. D'accord ? Donc pour faire cet organe, cette main, hein, à partir de ma zone polarisée, eh bien, il me faut un morphogène peut-être, mais il me faut trois stratégies avec mon morphogène. Hein, ça vous indique à peu près la complication. Et c'est une complication au niveau évidemment des mécanismes de transduction du signal, mais aussi au niveau des mécanismes de diffusion du signal. Et donc, je vais commencer maintenant à vous parler un tout petit peu des histoires du... Alors voilà, ici, vous voyez, dans le mutant, comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher la sécrétion de Sonic ? Eh bien, on peut faire un mutant dispatch. Je vous ai dit que Sonic était dans la membrane à cause de son cholestérol et de son palmitoate, hein, et que pour le décrocher de la membrane... Alors, s'il est dans la membrane et qu'il a une action sur les cellules en fonction de la durée d'expression par ces cellules, il n'a pas besoin de décrocher, il est là déjà. Hein. Pour faire mon doigt 5 et mon doigt 4, je n'ai pas besoin d'être libéré. Hein. Je suis content, je suis sur place. Pour faire le doigt 1, je n'ai pas besoin d'être libéré, puisque le doigt 1, il ne faut surtout pas qu'il y ait des jogs de Sonic pour qu'il le fasse. La seule chose pour laquelle j'ai besoin d'être libéré, c'est pour faire mon doigt 2. Et donc, si je fais un mutant dispatch, c'est-à-dire qui empêche l'extraction du morphogène de la membrane, hein, pour qu'il soit extrait en dépit du fait qu'il est accroché à la membrane par le gras, il faut que j'ai le gène dispatched, qui me permet d'extraire mon morphogène. Si je fais une souris dans laquelle j'ai du Sonic, même s'il est hétérozygote du Sonic, mais où j'ai délété dispatch, vous voyez quel est le doigt qui me manque ? Il manque le doigt 2. D'accord ? Il manque juste le doigt 2. Le doigt 2 est le seul qui dépend uniquement de la diffusion pour être fabriqué. Donc, ouais, c'est sympa. Et l'autre, pour comprendre à fond cette histoire, ça veut dire que les cellules ont une mémoire. Elles sont capables de savoir pendant combien de temps, hein, parce que c'est pas dur de dire qu'il va dire, mais elles sont capables de savoir pendant combien de temps elles ont été exposées au morphogène. Et de transformer cette durée d'exposition en un programme morphogénétique. C'est-à-dire, parce qu'un doigt 3, c'est pas comme un doigt 2, c'est pas comme un doigt 1, on n'a pas les mêmes doigts. Et ici, ça, c'est assez joli, mais c'est une première bille qui a du morphogène. Là, c'est une bille, j'ai rien mis. J'ai cultivé pendant 10 heures. C'est du poulet, je suis revenu à du poulet. Hein. Ici, j'ai mis une deuxième bille sans rien et j'ai mes trois doigts de poulet habituels. J'ai tous vu une patte de poulet. Hein. Ici, j'ai mis du Sonic pendant 10 heures et rien dans la deuxième. 10 heures, ce n'est pas suffisant pour induire une transformation morphologique. Donc, j'ai une main ou une patte à peu près normale. Hein. Ici, ce que j'ai fait, j'ai mis pendant 10 heures sans rien, et ensuite j'ai mis du sonic pendant 16 heures. Donc je suis passé de 10 heures à 16 heures. Qu'est-ce qui se passe? Je fais un doigt supplémentaire. D'accord? Ici, j'ai mis 10 heures, et ensuite j'ai rajouté pendant 16 heures. Et maintenant, j'ai une duplication complète. Donc ça veut dire que mes cellules sont capables de savoir ici qu'elles ont déjà été exposées pendant 10 heures à du sonic, donc qu'elles sont capables de mesurer le temps d'exposition au morphogène, et qu'en fonction de ce temps qu'elles ont mesuré, qu'elles ont retenu, eh bien, elles vont me développer une main particulière, évidemment. Voilà, quoi, c'est comme ça que ça fonctionne pour Sonic. J'espère que c'est comme ça, mais en tout cas, c'est ce que prétendent ces gens, et je pense que c'est super intéressant. Je termine avec Sonic, juste pour vous dire... C'est pas du tout pédagogique ce que je vous fais, parce que je vous prends tous les trucs à l'envers ou à l'endroit, mais peut-être que c'est plus pédagogique que de faire un cours pédagogique, je sais pas comment ça se passe, mais moi c'est comme ça que je l'ai vu. Donc je vous fais un tout petit encadré sur Sonic, ensuite on peut discuter un peu, et la semaine prochaine je parlerai de tous les mécanismes de transport possibles et imaginables. Et puis on arrêtera là. Et j'essaierai de vous donner un petit coup sur les sucres quand même, sinon je ferai les sucres l'année prochaine. Non, mais Fabienne veut du sucre dès cette année, mais je m'arrangerai à faire un peu de sucre. Hein. Donc, c'est un facteur qui est sécrété, donc il a un signal peptide, et en fait, il est sécrété sous la forme d'un précurseur, et la partie C-terminale de la protéine s'autoclive et libère un partie C-terminale sur lequel je vais accrocher un cholestérol. Donc ça, c'est le cholestérol de la partie C-terminale des jogs. Hein. Rappelez-vous, c'est la seule protéine qu'on connaisse qui lie de façon covalente un morceau de cholestérol. Et ensuite, j'ai le clivage de mon signal peptide, comme toute protéine sécrétée se doit, et j'ai la formation, l'accrochage d'un autre lipide. Donc c'est une protéine qui est assez bizarre. Hein, parce que elle est, c'est la protéine, et de chaque côté, j'ai du gras. Hein, donc, c'est la façon dont ça signale. Donc oubliez ça, parce que je vous le garderai peut-être pour la semaine prochaine, si j'ai le temps. Mais normalement, si vous voulez, j'ai une molécule qui s'appelle smoothened, qui est réprimée, c'est-à-dire que dans l'activité est réprimée par une autre molécule qui s'appelle patched. Elle est réprimée parce qu'en fait, patched est capable d'envoyer un stérol, en fait, un stérol inhibiteur, sur smoothened. Et quand hedgehog se fixe sur patched, à ce moment-là, j'empêle patch d'inhiber smoothened et smoothened devient active et il envoie son signal. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est des mécanismes proposés pour le transport. Donc là, vous voyez que par exemple, comme il a des queues grasses, un cholestérol, un palmitate, ce que vous faites, c'est que dispatch lui permet de sortir, mais les régions hydrophobes s'agrègent entre elles et j'ai des multimères, par exemple, de hedgehog qui peuvent se promener. Ou bien, je peux faire c'est une membrane, carrément, dans laquelle j'ai un morceau de membrane, hein, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, comme un argosome. Hein, ça, c'est un argosome. Donc, il y a différentes possibilités pour mon facteur d'aller se promener, et évidemment, on n'est pas entièrement sûr hein, laquelle est la bonne. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé des transcytoses. Transcytose simple, c'est-à-dire la molécule sort et puis elle rentre, de la transcytose par argosome ou de la transcytose par exosome, ce qui est relativement proche, bien que ce soit pas exactement la même chose. Et je peux vous parler cette semaine, là on a un petit peu pas beaucoup de temps, on a plus que 10 minutes, donc si vous voulez on peut plutôt discuter, mais je vous parlerai du transport par cytonème. Moi j'aime beaucoup les cytonèmes, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup les cytonèmes, mais moi j'aime beaucoup les cytonèmes. Cytonème, vous savez, c'est la pieuvre qui va aller chercher la molécule très loin pour se la récupérer. Comme ça, on peut aller chercher le morphogène à une très grande distance, sans aucune diffusion du morphogène. Et puis, je vous parlerai des modifications post-traductionnelles et des transporteurs, avec évidemment la question des sucres complexes, sur laquelle je terminerai pour vous dire à quel point c'est important les sucres complexes. Donc, si vous voulez, on continue, mais comme on a que 10 minutes, moi je pense que c'est pas mal. Vous devez être fatigué, moi je suis fatigué en tout cas. S'il y a quelques questions, on peut terminer par quelques questions, et puis la semaine prochaine, on passera à ce point-là.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.